Je viens de remarquer que le premier passage que nous allons lire tout à l'heure, dans le psaume 78, la première ligne, dit « Mais lui qui est compatissant ». Et pourtant, notre sujet aujourd'hui, c'est la justice de Dieu. Et ce passage parle de sa justice, mais ça commence avec ce petit rappel de l'amour de Dieu. Et je crois qu'il est primordial que nous nous rappelons que la sainteté de Dieu comprend à la fois son amour et sa justice, et qu'on ne peut pas séparer les deux. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois maintenant, je vais le dire encore plusieurs fois aujourd'hui. Donc s'il y a une chose à retenir dans ce séminaire, c'est justement cela, que la sainteté de Dieu comprend ces deux aspects de sa personne, c'est-à-dire sa justice et son amour. En effet, si l'un de ces deux attributs manquaient, Dieu ne serait pas saint. Là, je l'ai dit aussi plusieurs fois. Et par exemple, trop souvent, l'amour humain, et là je parle de l'amour humain, laisse les personnes faire ce qu'elles veulent, et nous appelons cette philosophie humaine le laisser faire. Et pourtant, un amour qui laisse faire, qui ne corrige pas, qui ne fait pas obstacle ce qui est mal, qui n'arrête pas ce qui est mal, n'est pas saint. Ce n'est même pas de vrai amour, car le vrai amour, l'amour agapé, veut le bien-être de l'autre, même si parfois il faut faire des choses qui font mal, disons dans la correction par exemple. Et laisser faire laisse justement les personnes faire du mal et à eux-mêmes et aux autres. Et donc le vrai amour ne peut pas laisser faire dans ce sens-là. Un amour saint, S-I-N-T ou S-I-N, l'un ou l'autre, est tempéré par la justice qui intervient au moment propice afin de mettre terme au débordement et afin de corriger le mal. Donc c'est ça l'amour saint que Dieu exerce et qu'il attend de ses enfants. De l'autre côté, de réagir sévèrement contre le mal, sans miséricorde, sans compassion et d'une manière injuste, ne serait pas saint non plus. C'est-à-dire, on peut avoir raison de corriger un mal, mais sa façon de le faire peut être injuste, et donc ne serait pas saint. Il y a de nombreux passages dans la Bible qui associent l'amour et la justice de Dieu avec sa sainteté et qui montrent qu'il y a un bon équilibre entre les deux. Par exemple, il y a des termes dans les mêmes passages comme « colère » et « miséricorde » ou punition et grâce. Dans les 10 commandements, dans le premier commandement, quand Dieu parle de « il ne faut pas avoir d'autre Dieu devant moi », etc., Dieu dit qu'il punirait l'idolâtrie, mais qu'il serait miséricordieux envers ceux qui gardent ses commandements. Donc, il y a toujours cet équilibre dans les Écritures. Lisons maintenant ce psaume 78 que je vous ai mis sur la feuille. Et remarquez l'équilibre qui ressort ici. Mais lui qui est compatissant faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas. Il multipliait les occasions de retenir sa colère et n'éveillait pas toute sa fureur. Il se souvenait qu'il n'était pas cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'attristaient dans la solitude. Ils recommençaient à tenter Dieu, à provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, ni du jour où il les avait libérés de l'adversaire, ni de ses signes qu'il avait fait paraître en Égypte. Il fit partir son peuple comme le menu bétail. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea en sécurité. Ils ne tremblèrent pas, et la mer recouvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite avait acquise. Il chassa des nations devant eux, leur attribua un héritage au cordeau, et fit demeurer dans leur tente les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut, se révoltèrent contre lui, et ne prirent pas garde à ses préceptes. Ils s'éloignèrent et furent des traîtres comme leur père. Ils dévièrent comme un arc faussé. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par le statut. Dieu entendit et fut en courroux. Il eut un grand mépris pour Israël. Il délaissa la demeure de Silo, la tente où il demeurait parmi les humains. Il livra sa puissance à la captivité et sa splendeur entre les mains de l'adversaire. Il livra son peuple à l'épée et fut encouru contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne reçurent pas de louanges. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sorte de cycle ici. Par exemple, Dieu, par son amour, voulait être compatissant et faire le bien. Et il l'a fait. Il l'avait fait. Ensuite, le peuple avait oublié les bienfaits de Dieu et s'était rebellé contre Dieu. Puis, Dieu, dans sa sainteté, ou sa sainte justice, avait sévèrement puni le peuple selon ses crimes. Et finalement, dans la partie que nous n'avons pas lue, parce que quand on lit dans la suite de ce psaume, c'est pas tout le psaume que j'ai lu là, nous avons, le peuple s'était repenti et Dieu, dans son amour, l'avait béni de nouveau. Donc, Dieu est à la fois justice et amour. Il est le Dieu saint. Et ça ressort maintes et maintes fois dans les Écritures. Bon, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, a dit que la grâce règne par la justice. Et on se demande comment est-ce possible, mais la grâce règne par la justice et l'amour est l'accomplissement de la loi. Et pourtant, quand on pense à une loi, on pense à quelque chose de contraignant, quelque chose qui est un peu négatif, qui empêche, qui fait obstacle, qui enlève la joie de vivre, si vous voulez. Et pourtant, il dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. L'apôtre Paul, selon Romains 11, le verset 22, a dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Et il le dit dans le même passage. « Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. » Bon, pour moi, le déluge de Noé est un bon exemple de ces deux qualités d'amour et de justice, côté bonté et sévérité de Dieu, parce qu'il était saint. Sa justice l'avait obligé de punir les pécheurs, de purifier sa création, afin de protéger les justes, dans ce cas Noé et sa famille. Pourtant, sa justice était inséparable de son amour qui voulait tenter de sauver ces mêmes pécheurs, comme il voulait sauver Noé. Bon, comment est-ce qu'on sait cela? Par exemple, pendant 120 ans, pendant la construction de l'arche, à travers la prédication de Noé, Dieu avait appelé ses hommes et ses femmes à la repentance afin de les sauver, parce qu'il voulait leur offrir aussi à eux, aussi bien qu'à Noé et sa famille, le salut. L'apôtre Pierre a appelé Noé un prédicateur de la justice. Ça, c'est en 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. Bon, de plus, parce qu'il est saint, la Bible dit qu'il se souvient de Noé, que Dieu se souvint de Noé. D'abord, il s'est souvenu de la justice de Noé, parce que dans ce texte ici et dans d'autres textes, en Ézéchiel par exemple, et aussi en Hébreux chapitre 11, il parle de Noé comme un homme de foi, un homme obéissant, un homme juste. Et dans ce passage-là, il s'est souvenu de la justice de Noé, ainsi lui et sa famille n'ont pas été détruits avec ses autres, qui ont refusé de se repentir pendant 120 ans. Il ne faut pas oublier cela. Ensuite, Dieu s'est souvenu de Noé et de sa famille dans l'arche. Bon, il a déjà sauvé la famille du déluge. Ils sont dans l'arche depuis, je sais combien de mois, 9 mois, je crois, ils étaient dans l'arche. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a conduits dans une nouvelle vie sur une terre purifiée. Donc, il ne les a pas laissés tomber. Il était toujours là pour eux. Mais à travers l'histoire, dès le commencement du monde, nous retrouvons maintes et maintes fois ces mêmes deux attributs de la sainteté de Dieu démontrés aux hommes. Il a puni la méchanceté, mais il s'est souvenu de ses justes, des justes et des fidèles, et ainsi dans son amour, il les a épargnés de ses jugements. Ils n'ont pas été punis comme les autres. Depuis donc, avant le commencement du monde, Dieu avait toujours voulu épargner. Je vous ai lu le passage que nous allons lire maintenant en Ézéchiel la semaine passée, mais j'aime bien parce que ça montre le cœur de Dieu, le sentiment de Dieu, qu'il veut sauver. Il ne veut pas punir, mais il veut sauver. Qu'est-ce qu'il dit à Israël? « Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminel. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Et il avait dit aussi à Israël à travers son prophète Osée, le texte en Osée 11, verset 9, « Je n'agirai pas selon mon ardent colère. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car moi je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. » Et quand on lit le contexte de ce texte ici, en Osée chapitre 9, Dieu voulait être miséricordieux, mais, et là il y a toujours un mais, il y a toujours une condition. Et la condition était que sa miséricorde dépendait de la décision d'Israël de se repentir ou non. Dieu veut pardonner, Dieu veut sauver, Dieu veut bénir, mais l'homme doit choisir de lui obéir, sinon Dieu est obligé de donner ce que l'homme a choisi. Et l'homme doit subir les conséquences de ses péchés. Bon, tout à l'heure, nous avons lu le texte de Paul, Romains 11, verset 22, selon lequel il a dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu ». Il y a 2 semaines, nous avons passé 2 heures à parler de l'amour de Dieu. Et puis la semaine passée, nous avons passé 2 heures à parler de la sainteté de Dieu. Bien sûr, en parlant de la sainteté, j'étais obligé de rappeler encore que la sainteté se compose, n'est-ce pas, de sa justice et de son amour. Aujourd'hui, on va parler de sa justice. Mais nous avons lu le samedi passé quelques textes qui montraient une sainteté stricte, ou on peut dire une sainteté sévère, où Dieu a établi les limites à ne pas dépasser sous peine de mort. Et si vous voulez revoir ça ou écouter les cassettes, je peux vous les passer. Mais c'est ce côté sévère de Dieu qui contrastait avec sa bonté. Il est à la fois bon, miséricordieux, amour et sévère. Nous avons donc, la semaine passée, parlé de la majesté ou de gloire de Dieu. Nous avons parlé de sa pureté, nous avons parlé de sa séparation, comment il est tellement différent de toute autre personne. Et il exige cela de ses enfants, qu'on soit différent, qu'on soit distinct de ce monde, dans ce monde dans lequel nous vivons. Et nous avons donc vu des textes où, le plus souvent, Dieu s'est révélé à son peuple dans le feu, ou quelque chose associé au feu, tel que la fumée ou les braises. Il y a beaucoup de termes, plein d'images, qui sont des images de cette sainteté de la présence de Dieu. Bon, en continuant avec ce côté sévère de Dieu, il y a un autre terme qui apparaît souvent dans l'Ancien Testament et qui décrit sa sainteté et révèle à la fois sa justice et son amour. Et ce terme, c'est le mot jalousie. Dieu est un Dieu jaloux. Et l'idée que Dieu puisse être jaloux nous choque peut-être. Mais lorsque nous comprenons ce que cela veut dire, nous comprendrons que sa jalousie va bien avec sa sainteté et en fait partie, et que sa jalousie fait partie de sa personne. C'est aussi un attribut de Dieu. D'habitude, on ne pense pas à la jalousie comme un attribut, c'est plutôt quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Au moins dans notre tête, c'est quelque chose de péjoratif. Mais plutôt, dans le contexte de sainteté, c'est quelque chose de positif, et je vous explique. Lorsque Dieu à parler d'être jaloux, il ne faut pas croire que sa jalousie implique les mêmes limitations, les mêmes imperfections et les mêmes caprices que la jalousie humaine. Il ne faut jamais penser ça, déjà. La jalousie de Dieu ne le pousse jamais à une action immorale, impulsive, injuste ou déraisonnable comme la jalousie humaine est souvent le cas. La jalousie de Dieu est le mieux défini, et voilà comment je le définis. Je crois que c'est la meilleure définition que j'ai pu trouver. Il est mieux défini comme son zèle pour protéger sa sainteté et la sainteté de ceux qu'il aime. La jalousie de Dieu, c'est son zèle pour protéger sa sainteté et la sainteté de ceux qu'il aime. La jalousie, donc, c'est son désir, son effort, son zèle pour améliorer ou renforcer son rapport ou son lien avec l'homme. Et comprise comme cela, sa jalousie est certainement positive et à comprendre et comprendre aussi une autre expression de son amour, aussi bien que sa justice. Bon, si sa jalousie le pousse à punir, cela sera parce qu'il aime et parce qu'il veut le bien pour ses enfants. Il veut la sainteté pour ses enfants car il sait ce qui est la meilleure chose pour eux. Il sait ce qui est mieux pour nous parce qu'il est notre Créateur. Et on peut même avancer ça dans l'histoire. Dès la création, Dieu sait ce qui est le mieux pour l'homme. Mais à partir du moment où Jésus est devenu homme, il comprend aussi, n'est-ce pas? Parce que Jésus, en tant qu'un homme, a vécu comme nous. Il connaît toutes nos faiblesses et toutes nos tentations. Donc, il peut nous comprendre. Il sait ce qui est notre situation. Quelles sont nos faiblesses. Et ainsi, il sait ce qui est le mieux pour nous. Donc, il y a de nombreux passages dans la Bible où Dieu a dit à son peuple qu'il est lent à la colère. Dieu ne se précipite pas à punir ou à se venger. Il ne veut pas la mort de celui qui meurt, comme a dit Ézéchiel. Au contraire, Dieu, il prend son temps, très longtemps, trop longtemps, pour beaucoup d'hommes, avant de punir. Parce que combien de fois est-ce que j'ai entendu les personnes disent, mais pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose? Et pourtant, on ne se rend pas compte que nous sommes en train d'accuser la patience de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que s'il fait quelque chose, ça veut dire la fin pour cette personne peut-être. Mais s'il est toujours juste sur le coup, est-ce qu'il y aura une personne qui serait vivante sur cette terre aujourd'hui? Parce que sa patience, heureusement elle est patiente, et aussi bien pour nous que pour notre voisin ou la personne qui fait du mal à côté de chez nous. Donc, il est extrêmement patient et s'il doit punir, il soit zélé pour rétablir le lien cassé par le péché. C'est-à-dire, il essaie toujours d'amener les personnes à la réconciliation. Son zèle pour punir la faute fait partie aussi de son zèle pour rétablir le lien une fois que la faute est corrigée. Vous voyez? Ça, c'est la jalousie de Dieu. Bon, bien que la nature de Dieu soit patiente, nous devons bien comprendre et ne jamais oublier que la jalousie ou le zèle de Dieu, lorsque Dieu est outragé, est terrible. Hébreux 12, verset 29, car notre Dieu est un feu dévorant. Et ça, c'est une citation de notre passage que nous allons lire dans juste un moment. Bon, là où le péché et la rébellion persistent, il y aura un compte à rendre, car Dieu agira afin d'éloigner le mal de lui-même et de ses enfants. Dieu n'est pas comme nous, il agit. Parfois, il est patient, on dit, mais un peu trop patient, mais il faut se rendre compte et se rappeler aussi qu'il agira et qu'il agit. Et il agira effectivement, efficacement, pour faire ce qu'il veut faire. Donc, il agira afin de sanctifier, et afin de sanctifier ceux qu'il aime, et se sanctifier lui-même et ceux qu'il aime. La Bible explique la jalousie de Dieu le plus souvent dans le contexte de mariage spirituel ou d'une alliance. Nous avons beaucoup de passages qui parlent d'une alliance que Dieu a fait avec Israël, avec Noé, avec Abraham, toutes sortes d'alliances, mais l'alliance par excellence de l'Ancien Testament, c'est celle qu'il avait fait à travers Moïse, avec les lois, etc., et quand il a formé la nation. Mais aussi comme un mariage spirituel. Et donc, que ce soit un mariage spirituel, une image de cela, ou d'une alliance, Dieu exige la fidélité et la loyauté. Et lorsqu'il y avait de l'infidélité ou de traîtrise, appelée l'adultère spirituel, par exemple dans le prophète Osée, comme c'était le cas d'Israël, Dieu, avec une jalousie juste et un zèle saint, avait condamné et exigé la punition. Mais, une fois qu'il y avait repentance, s'il y avait repentance, il était aussi zélé pour rétablir les liens, la réconciliation. Dieu est jaloux. Et sa jalousie est une partie intégrale de son être saint qui agit avec zèle afin de protéger et de sauvegarder l'intégrité de sa sainteté, aussi bien que l'intégrité de la sainteté de ceux qu'il aime. Bon, je l'ai dit donc de plusieurs façons maintenant, la même chose, je ne sais pas si vous avez remarqué. Parlons à Israël, Moïse a dit, on va lire Deutéronome 4, versets 23-24. Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous, et que vous ne fassiez une statue, une représentation quelconque, contrairement à ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et là, voilà le texte qui est cité en Hébreu, chapitre 12. Bon, quelle leçon pouvons-nous apprendre de la jalousie de Dieu? J'aimerais suggérer deux leçons pour nous, qui sont valables pour tout le monde qui craint Dieu. Premièrement, nous apprenons que nous aussi, nous devons être jaloux, comme Dieu est jaloux. Nous devons être zélés, comme Dieu est zélé, mais nous devons être zélés ou jaloux, si vous voulez, pour Dieu, comme il est jaloux et zélé pour nous. Ça doit être quelque chose de réciproque. C'est ça que Dieu demande. Une autre façon de dire, Dieu dit, vous serez saints comme moi je suis saint. Même chose. Cela veut dire donc que nous devons faire très attention à notre façon de penser et de vivre parce que nous voulons dans tout ce que nous faisons honorer Dieu. Donc il faut être zélé pour vivre une vie, pour penser des pensées qui sont quelque chose ou des choses qui vont honorer Dieu. Cela veut dire que nous devons faire notre mieux afin de faire connaître Dieu aux autres. La personne qui croit en Dieu, la personne qui s'est confiée à Dieu, qui a reçu beaucoup de bénédictions de Dieu, doit aussi faire quelque chose pour faire connaître Dieu aux autres, pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces mêmes bénédictions. Ça fait partie aussi de ce zèle ou de cette jalousie que nous devons avoir. Cela veut dire que notre sainteté ne peut pas être une sainteté passive, mais doit être une sainteté agressive, dans le sens que nous devons faire tout notre possible pour honorer Dieu, mais aussi pour le faire connaître, pour vivre une vie sainte. Ça fait partie de cette jalousie dont Dieu nous demande. Nous trouvons ce zèle, cette passion pour Dieu, dans les paroles de l'apôtre Paul qui, même menacé de prison et de mort, a dit, selon Actes 20, verset 24, « Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul, il faisait peu de cas de sa vie, parce qu'il voulait tellement faire plaisir à Dieu et rendre témoignage de cette grâce de Dieu qui a été accordée à lui. Bon, deuxième leçon, nous apprenons la jalousie de Dieu et que Dieu ne prend pas le péché à la légère. Dieu ne prend pas le péché à la légère. On a vu cela, je crois, dans le cas de la sainteté de Dieu autour de la montagne, quand Uzza a touché l'arche de l'Alliance, tout ça, c'était des péchés quand même, quand les gens s'approchaient trop de la sainteté de Dieu sans se purifier comme il fallait faire. Mais trop souvent, nous prenons le péché à la légère, ou tout au moins certains péchés, parce qu'il y a toujours nos petits péchés à nous qu'on aime. On ne veut pas nous débarrasser de ces péchés-là. Donc on tolère certaines choses en nous ou en d'autres personnes que nous estimons, on croit estimer, parce que si on aime, on ne va pas tolérer le péché. Bon, tout cela dit, nous avons des péchés que parfois nous tolérons. Dieu, par contre, ne tolère aucun péché. Aucun. Dans Jacques, je viens de penser à ceci, il est dit que si vous êtes coupable d'un péché contre un des commandements de la loi, vous êtes coupable contre toute la loi. Donc selon Dieu, le péché c'est quelque chose d'horrible. Dieu est dur avec le péché et dur avec ceux qui persistent dans le péché, bien qu'ils préféraient de loin pardonner et oublier. Pourquoi mourriez-vous maison d'Israël, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, a-t-il dit, n'est-ce pas? Mais il y a des choses que les gens font qui tentent Dieu. Et donc, comme nous avons vu la semaine passée, il est impossible pour Dieu de tolérer le péché ou d'être en contact avec le péché. Et en parlant de sa pureté, de sa séparation la semaine passée, en parlant de sa sainteté, qui sont les éléments essentiels de sa sainteté, nous avons vu que Dieu est certainement à part ou différent ou distinct de toute autre chose, surtout les choses impures. Et peut-être vous vous rappelez aussi que j'ai dit que Dieu est incomparable et que Dieu est intouchable, pas parce qu'il est impur, mais parce qu'il est pur. Et donc, le péché de l'homme met une barrière entre lui et Dieu. Et ce n'est pas que Dieu ne veut pas de relation avec l'homme, mais que c'est impossible. Et je vais répéter quelque chose ici que j'ai aussi dit la semaine passée. Le péché met une barrière infranchissable, même pour Dieu, parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même, parce qu'il est saint. Il est le saint et il lui est impossible de s'associer au péché. On a lu le texte la semaine passée en Ésaïe 59. Je ne relis pas maintenant, mais vous aurez le texte là, répété pour vous. Puisque Dieu est dur et intolérant du péché à cause de son zèle pour la sainteté, nous ne devons pas oser nous trouver en opposition à Dieu. Résister aux ouvertures de Dieu serait le suicide spirituel. De loin, et par sagesse, nous devons préférer lui faire plaisir, car il ne faut jamais oublier, il sait ce qui est le mieux pour nous. Et donc, s'il a dit faire quelque chose, il vaut mieux le faire, parce qu'il sait ce que c'est la meilleure chose à faire. Et si on ne le fait pas, on risque des conséquences. Il est le Dieu créateur qui aime, et il s'attend que nous aimions à notre tour. Que nous l'aimions et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, avec un amour agapé que nous avons défini. J'aime bien ce que l'apôtre Jean a écrit en 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et Jean, il a écrit cela dans le contexte de comment nous devons aimer les uns les autres. C'est dans un passage qui parle de l'amour réciproque, l'amour mutuel ou fraternel. Bien sûr, le même devrait être vrai envers Dieu. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. En effet, nous ne serons pas comment aimer si Dieu n'avait pas montré ce que c'est l'amour. Il est amour, comme a dit aussi Jean. Bon, le plus grand acte de justice et d'amour, et ainsi de sainteté de la part de Dieu, se trouve dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Jésus. Je sais que je devais me limiter à l'Ancien Testament, mais il faut dire que ceci se passe sous l'Ancienne Alliance. Et donc, voilà, je passe un peu dans le Nouveau ici, parce que je ne peux pas laisser tomber ça. La crucifixion a exprimé la sévérité et la justice de Dieu contre le péché et en même temps son amour miséricordieux envers le pécheur. La crucifixion était pour moi la révélation suprême que Dieu est saint et qu'il veut que tout homme soit saint aussi. Donc il a fait le maximum pour que nous ayons cette sainteté, pour qu'on puisse participer à cette sainteté. Selon Romains 5, l'apôtre Paul a révélé comment Dieu a démontré son amour dans la mort de Jésus et comment ce don a été offert afin que nous puissions nous échapper à sa justice. Et donc, ça revient à la justice de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.